Sébastien Legeny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, 2/3 des buralistes vendent du tabac aux mineurs en toute illégalité. Bilan du Comité national de lutte contre le tabagisme qui fait des recommandations ce matin. Plus de contrôles et plus de sanctions, précision dans un instant du service santé de France Inter. Emmanuel Macron, lui, repart en campagne sur les retraites. Le lancement du grand débat avait été annulé suite à la mort de Jacques Chirac. Le président sera ce soir dans l'Aveyron face à 500 citoyens français. À suivre également le président Trump, de plus en plus nerveux avec la procédure de destitution qui le menace. L'inauguration aujourd'hui d'un nouveau commandement de l'armée française, le Comcyber, destiné à lutter contre les cyberattaques. Et puis pour finir, le succès de Banksy, le street artiste à laquelle une exposition est consacrée à Paris. Nous y serons.
Et à 7h50, dans 20 minutes, l'invité de Léa Salamé ce matin est le journaliste David Dufresne. Il publie Dernière sommation aux éditions Grasset.
France Inter.
Quand les buralistes français, Sébastien, ne respectent pas la loi.
Pas celle, en tout cas, sur l'interdiction de vente de cigarettes aux moins de 18 ans. Cette interdiction à tous les mineurs date d'il y a 10 ans. La loi oblige normalement le buraliste à afficher cette interdiction, à exiger une pièce d'identité. L'idée, c'était de retarder le plus possible l'âge d'entrée dans le tabagisme. 10 ans après, quel bilan pour cette loi? Eh bien, le fléau persiste. Près d'un quart des adolescents français de 17 ans sont des fumeurs quotidiens, alors que ce taux est de moins de 4% aux États-Unis et de 5% en Suède. Les autorités et les associations, comme le comité de lutte contre le tabagisme, pointent du doigt les buralistes jugés trop laxistes, malgré les risques d'amende jusqu'à 750 euros. S'acheter un paquet quand on est un mineur reste un jeu d'enfant. Le reportage de Véronique Julia.
Le test est facile, il suffit de demander à un mineur comment ça se passe pour lui quand il veut acheter des cigarettes chez un buraliste. La réponse de Pénélope, 16 ans.
On me demande jamais ma carte d'identité. On me les donne sans me poser de questions.
Le constat est accablant. Plus de 40% des buralistes n'affichent pas que la vente de tabac est interdite aux mineurs et moins de 20% contrôlent la carte d'identité. Pourtant, on le sait, la première cigarette est fumée en général vers 13-14 ans et les 2/3 des jeunes qui tentent pour voir deviendront des consommateurs quotidiens une partie de leur vie. Alors comment faire pour éviter ce portail d'entrée dans le tabagisme? S'inspirer de ce qui se fait ailleurs, au Québec notamment, où le contrôle est devenu drastique, explique le professeur de pneumologie Yves Martinet. Il préside le Comité national contre le tabagisme.
Les consommateurs qui veulent acheter du tabac doivent être porteurs d'une carte qui précise leur date de naissance. Cette carte est scannée systématiquement par le dépanneur. C'est comme ça qu'on appelle les buralistes au Québec. Si la lumière est verte, le dépanneur vendra du tabac. Si c'est la lumière rouge, la vente est interdite.
Une piste recommandée en France. Le Comité national contre le tabagisme préconise également une meilleure information des buralistes, mais aussi des contrôles plus fréquents, associés à des sanctions plus contraignantes, comme la fermeture administrative momentanée du bureau de tabac en cas de récidive.
Véronique Julia, comment faire mieux respecter l'interdiction de vente de cigarettes aux mineurs? C'est à retrouver sur franceinter.fr. À Rouen, la version de l'usine Lubrizol, qui suspecte un acte extérieur d'être à l'origine de l'incendie, est ce matin battue en brèche par les premiers éléments de l'enquête. Les images de vidéosurveillance ne permettent pas d'étayer cette hypothèse, selon nos confrères du Monde. Et puis dans une autre ville, à Megève, en Haute-Savoie, on a appris cette nuit que l'eau du robinet était impropre à la consommation jusqu'à nouvel ordre, à cause de la présence d'une bactérie à l'intérieur d'un réservoir d'eau.
Il est 7h34. Le lancement du débat sur les retraites avait été reporté la semaine dernière. Il aura finalement lieu ce soir à Rodez, dans l'Aveyron.
La mort de Jacques Chirac avait contraint l'Élysée à annuler l'inauguration de cette nouvelle consultation citoyenne. Il se déroulera avec ce débat avec une semaine de retard, donc, mais dans le même format, 3 heures de débat entre un président micro à la main et 500 lecteurs du groupe de presse La Dépêche. Mais entre-temps, ce débat s'est encore compliqué. Le déficit de l'assurance vieillesse va grimper à plus de 6 milliards d'euros. Yael Gauze.
Pendant que la France rendait hommage à Jacques Chirac, l'équation s'est encore complexifiée. Des trous dans le budget, l'assurance vieillesse en déficit, alors qu'Emmanuel Macron a toujours dit que le futur système ne pourrait démarrer qu'avec des comptes à l'équilibre. Il va donc falloir rassurer, car dans les enquêtes d'opinion, la défiance est là. Et dans la majorité, François Bayrou joue les lanceurs d'alerte.
Parce que Une société dans laquelle ceux qui entrent en retraite ne sont pas assurés du niveau de vie que la retraite va leur apporter est une société fragilisée. Les réformes, si on veut qu'elles réussissent, elles ne valent que si les peuples ressentent qu'elles sont conduites pour eux et avec eux.
Le président du Modem, dimanche, à Guidel. Ce grand débat est donc conçu pour dissiper les grands malentendus. Matignon s'engage à préserver les bénéfices acquis, y compris pour les régimes spéciaux, et à ne pas piocher dans les régimes des professions libérales. Mais grand débat citoyen ou pas, il faudra composer avec des partenaires sociaux, hostiles ou sceptiques. À la CFDT, on redoute que le message ne soit brouillé par cette obsession de l'équilibre financier. Matignon y tient, et c'était déjà une source de conflit avec Jean-Paul Delevoye. Autre son de cloche à l'Élysée, pour réussir cette réforme, explique un ministre très proche du président, nous n'aurons pas d'autre choix que de tirer sur l'accord de budgétaire. Il faut acheter du temps en sortant le carnet de chèques.
Yael Gauze du service politique de France Inter. Direction les États-Unis maintenant avec ce nouveau tweet de colère de Donald Trump, de plus en plus nerveux avec la procédure de destitution entamée contre lui. Procédure qualifiée par le président américain de bullshit, je cite, de conneries en anglais dans le texte. Donald Trump de plus en plus agressif. Donc, exemple hier lors d'une conférence de presse conjointe avec le président finlandais en visite à la Maison Blanche à Washington, Gregory Phillips.
L'échange entre Donald Trump et le correspondant de l'agence Reuters à la Maison Blanche ne dure que quelques secondes, mais il illustre parfaitement la nervosité du 45e président des États-Unis.
Are you talking to me?
C'est à moi que vous parlez, demande Trump, à la manière d'un De Niro dans Taxi Driver, ce qui d'ailleurs ne manque pas de sel au vu des récentes attaques de l'acteur contre le locataire de la Maison Blanche. Puis, quasi menaçant, vous avez le président finlandais ici, posez-lui une question, ne soyez pas impoli. Moi, je vous ai déjà tout dit, toute cette affaire, c'est une arnaque. Et vous savez qui participe à cette escroquerie? Les gens comme vous et les médias de ce pays, propagateurs de fausses nouvelles, les médias corrompus. En 40 minutes de conférence, Donald Trump s'en prend donc à la presse, mais c'est habituel, aussi à Joe Biden et son fils, de vrais escrocs, dit-il, au représentant Adam Schiff, qui préside la commission du renseignement, un traître qui doit démissionner et être condamné. On connaissait un Donald Trump tempétueux, on l'avait rarement vu aussi nerveux. Hier soir, la démocrate Nancy Pelosi estimait que dorénavant, le président avait peur de l'enquête en vue de sa destitution. Lui préfère parler de coup d'État. C'est le thème de la toute dernière campagne de publicité lancée hier soir par l'équipe Trump 2020. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Le spectre de la guerre commerciale qui plane à nouveau entre l'Europe et les États-Unis après la décision hier de l'OMC d'autoriser les États-Unis à prendre des sanctions financières contre l'Union européenne pour avoir subventionné Airbus. Eh bien, l'administration américaine n'a pas tardé à publier hier dans la soirée une longue liste de produits qu'elle menace de taxer plus lourdement, plus 10% de droits de douane sur les Airbus, plus 25% sur le vin français, le fromage italien ou le whisky écossais. Ces nouveaux droits de douane ne seraient appliqués qu'à partir du 18 octobre prochain. On les appelle les cybercombattants. Ils sont chargés d'infiltrer des réseaux pour récupérer du renseignement, parasiter, paralyser l'adversaire en y infiltrant des virus. 400 de ces cybercombattants seront abrités officiellement à partir d'aujourd'hui dans un tout nouveau bâtiment classé secret défense de l'armée française. Le ComCyber à Rennes sera inauguré par la ministre des Armées Florence Parly. La cyberdéfense, une priorité pour le gouvernement. Il faut dire que depuis un an, les attaques contre les armées ne cessent d'augmenter, Nathalie Hernandez.
Il n'y a pas que les entreprises, les transports ou même les médias comme TV5 Monde qui se sont retrouvés paralysés pendant plusieurs heures. Les armées, elles aussi, ont été les cibles régulières de pirates. C'est ce qu'affirme le général François Lecointre. Le chef d'état-major des armées a même donné des chiffres édifiants aux sénateurs en juin dernier.
En 2018, 831 événements significatifs ont été recensés, soit une augmentation de l'ordre de 20% par rapport à l'année précédente.
6 de ces attaques ont été menées par des groupes affiliés à des États, ajoute le chef d'état-major, pour espionner de hauts responsables militaires. Le général Lecointre n'hésite pas à désigner la Russie.
Le ministère des Armées a été la cible d'attaques que certains attribuent à Turla, qui est un groupe affilié au service fédéral de sécurité russe. Les cibles identifiées sont des membres du ministère qui ont des fonctions opérationnelles d'intérêt, comme par exemple l'approvisionnement en carburant des bâtiments de la Marine nationale.
En revanche, ni l'Iran ni la Chine n'ont menacé directement les armées. Du vol de données au sabotage d'un appareil, tous les scénarios sont désormais envisagés. Alors afin de prévenir, le gouvernement investit
un millier de cybercombattants supplémentaires vont être enrôlés. La France ne s'interdira pas non plus une stratégie offensive avec le développement d'armes numériques.
Allez-y, oui. Nathalie Hernandez, voilà, spécialiste de défense à France Inter.
Il est 7h40, on termine avec le street artist Banksy qui devrait encore faire parler de lui aujourd'hui.
Il met aux enchères l'une de ses toiles qui sera vendue ce soir chez Sotheby's à Londres, une représentation du Parlement britannique où les députés ont été remplacés par des singes, une toile réalisée il y a 10 ans mais qui résonne comme un symbole aujourd'hui dans un pays ravagé par la crise du Brexit. La toile est estimée à plus de 1 700 000 euros par la maison de vente britannique. La preuve que l'engouement autour de Banksy est toujours aussi fort, comme l'a constaté notre reporter Bastien Munch à l'exposition qui lui est consacrée à l'espace Lafayette Drouot à Paris.
Dans cette exposition immersive baptisée The World of Banksy, les visiteurs défilent presque sans arrêt. Alexia est venue parce que Banksy l'intrigue.
Ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu secret, le côté un peu gangster de Banksy. Il agit plutôt la nuit, en extérieur.
Les visiteurs sont impressionnés par les reproductions d'œuvres de Banksy en taille réelle, notamment celle sur le célèbre mur de Bethléem qui sépare Israël des territoires palestiniens. Il a souvent servi de support aux œuvres de Banksy, des supports bien plus accessibles que pour les autres formes d'art, selon Alexandre.
C'est une offre qui est donnée finalement à la population. C'est un art où on coupe complètement le côté peut-être de l'industrie de l'art, où on va avoir des maisons d'édition, des maisons de disques ou n'importe quoi.
Plus de 70 000 personnes ont déjà visité l'exposition The World of Banksy depuis son ouverture en juin. Aziz Vardar est le directeur de l'espace Lafayette Drouot.
Les œuvres de Banksy sont très visionnées et interpellent. Et là, on a un cas flagrant où quand même il a dessiné le Parlement britannique avec tous des singes. Et en fait, on est dedans. Ce que cet artiste a dit il y a un certain temps, on le vit en live. Mais il faut arriver à faire en un trait, faire comprendre tout un message très complexe. Et en ça, il est exceptionnellement doué.
Selon Aziz Vardar, certains visiteurs ont déjà fait des propositions d'achat pour obtenir un pan de mur avec une reproduction d'une œuvre de Banksy.
Voilà, et au vu de son succès, l'exposition The World of Banksy est prolongée pour la deuxième fois jusqu'au 31 décembre prochain.
Merci Sébastien Logénine.